Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous sommes le lundi 27 mars. Il est 10h pile du matin. Derrière les vitres du studio, le soleil est radieux. Alors surtout, ne bougez pas. Restez exactement où vous êtes. Et souvenez-vous qu'il n'en a pas toujours été ainsi. Qu'il fut un temps où le printemps n'existait pas, où le ciel n'existait pas, où la mer, l'air et la terre offraient un seul et même aspect, une masse informe et confuse, un entassement d'éléments mal unis et discordants. Comment ce chaos a-t-il pris forme? Comment de ces ténèbres a pu jaillir de la lumière? Comment le monde est-il devenu le monde? C'est l'histoire que racontent les métamorphoses d'Ovide. Alors en route, sur les chemins de la philosophie, et place à la beauté. Bonjour Xavier Darcos.
Bonjour.
Ovide dit qu'il est un messager, dit ce chant de Christine de Pizan. Connaissez-vous un texte plus beau que les métamorphoses d'Ovide?
En termes de masse, de dimension, peut-être pas. C'est un immense fleuve qui enchaîne sans cesse des images fortes, une mythologie extrêmement puissante. Et donc c'est difficile quand même de ne pas être sensible à cette immensité, à cette dimension et à cette dynamique, au fond, de la création jusqu'à l'apothéose d'Auguste, de l'empereur. Et donc, oui, c'est un texte magnifique. Je dirais tout de même qu'il y a des petites formes très belles aussi. Et en particulier dans la littérature latine, je ferai une place très importante à des poèmes comme les bucoliques, ou des poèmes plus brefs, des petits textes qui sont aussi magnifiques.
Soyez le bienvenu, en tout cas, sur les chemins de la philosophie, Xavier Darcos. Vous êtes ancien ministre, ancien professeur de Cannes également, membre de l'Académie française et de l'Académie des sciences morales et politiques. Vous avez publié en 2009 aux éditions PUF, Ovide et la mort, et vous allez publier la semaine prochaine chez Fayard, Virgile, notre vigie. C'est dire votre connaissance de cette période. Alors d'ailleurs, décrivez-nous cette période quand Ovide écrit. On est au basculement. On va vers le début de notre ère même.
Tout à fait. Alors, Ovide, c'est un peu le tard venu, c'est le dernier. Hein. Il est de la génération qui suit Virgile. Il est né juste après l'assassinat de César.
En 43 avant Jésus-Christ.
Il est adolescent lorsque Auguste commence à s'installer, à prendre le pouvoir. Et il va mourir en 17, après Jésus-Christ. Donc il est exactement, comme vous le dites, sur la bascule entre les deux. Et sa vie d'ailleurs illustre aussi, par les hasards de son destin, cette bascule, puisqu'il y a quand même deux grands pans dans son écriture. Il y a un premier qui est extrêmement mondain, qui est extrêmement superficiel et drôle, qui est une poésie érotique, une poésie amoureuse, l'art d'aimer. Bon. Et puis petit à petit, il y a un sérieux qui apparaît dans son œuvre, en particulier avec les Fastes, où il fait la revue des grandes fêtes romaines, des grandes fêtes religieuses, qui est un texte d'ailleurs absolument passionnant, aussi bien sur le plan de l'écriture que sur le plan de l'histoire des idées, de l'histoire religieuse. Et puis, il se lance dans cet énorme projet quand même, 15 000 vers tout de même, hein, les métamorphoses, 15 livres, qui est de faire le catalogue de toutes les métamorphoses. Et entre les deux, dans ce contexte, il connaît aussi dans sa vie cette même déchirure, cette même brisure, puisque pour une raison qui reste d'ailleurs totalement inexpliquée, au milieu de sa vie, il est exilé, banni, relégué par Auguste, qui du jour au lendemain transforme cet homme très riche, ce grand patricien d'une famille fortunée, cet homme qui est un grand mondain de la vie romaine, il le transforme en exilé.
Et on ne sait pas pourquoi il a été exilé.
On ne sait pas exactement. Il parle d'une erreur. On dit qu'il a vu quelque chose qu'il n'aurait pas dû voir. C'est un débat absolument sans nom. Dans la littérature sur les raisons de l'exil d'Ovide occuperait plusieurs bibliothèques. C'est son débat sans nom. Mais en tous les cas, c'est secondaire. Ce qui est surtout très très grave, c'est que du coup, cette bascule de sa vie l'oblige à revisiter tout ce à quoi il a cru, son mode de vie. Il écrit une autre littérature extrêmement nostalgique, extrêmement tragique même, les Tristes et les Pantiques, et il va devenir l'archétype, le premier modèle du poète exilé auquel tout le monde se référera, jusqu'à Mandelstam, lorsqu'il est dans son goulag. Il appelle son récit d'exilé, il appelle ça Tristia, c'est-à-dire il reprend le titre Ovidien. Donc un personnage vraiment intéressant sur le plan de son existence et de la richesse de son écriture. Comme si, au fond, l'auteur des Métamorphoses savait que toute vie est une mutation, un passage d'un état à un autre, et qu'il avait quasiment anticipé son propre destin.
Rappelons aussi qu'il appartient à la génération qui suit celle de Virgile et d'Horace, hein, les poètes du régime d'Auguste, et que lorsque Virgile décrit les guerres, Ovide est d'abord décrit les passions amoureuses, hein, il a écrit beaucoup d'ouvrages, Les remèdes à l'amour, sur l'amour, l'art de ne pas souffrir, sur vraiment comment composer avec ces passions-là, alors que les métamorphoses, elles-mêmes, on l'a dit, traduisent le passage d'une époque à une autre, mais elles sont aussi écrites à l'aube d'une métamorphose, celle-ci culturelle, hein, celle de la civilisation gréco-romaine au contact du christianisme.
Oui, absolument. C'est la génération qui suit Virgile, et c'est une génération qui a le sentiment plus poussé que ne l'avait Virgile ou Horace d'un nouvel ordre du monde qui va commencer. Le bilan de cette mutation sera magnifiquement fait par Tacite, en 100 après Jésus-Christ, en gros, à la fin du premier siècle, où il percevra bien que des auteurs, des intellectuels ont senti cette mutation se faire et que Ovide l'incarnait dans une certaine mesure. Donc voilà la figure de l'exilé aigri se superpose à la figure du poète enthousiaste décrivant la romanité dans toute sa splendeur et l'agressité aussi, puisque les métamorphoses viennent surtout de la mythologie grecque. Ce double registre de l'écriture d'Ovide en fait un modèle qui a été beaucoup, beaucoup, beaucoup cité.
Le terme même de métamorphose indique le contenu du texte. Il s'agit de décrire des mutations, des transformations, pas simplement visuelles, mais aussi celle de l'âme qui va s'incarner de corps en corps. On est à la fois dans ce qu'on appelle la métempsychose et la palingenèse, c'est-à-dire toute une reproduction. Rien ne se perd. Tout se crée en permanence et renaît sans cesse. Mais ce qu'on ne sait pas forcément, c'est que le début des métamorphoses commence avant même le début du monde. Et les premières pages décrivent le récit de la mise en forme du monde. Écoutez ce début absolument inouï, c'est le cas de le dire à l'époque, ici interprété par Georges Clès.
Je me propose de dire les métamorphoses des formes en des corps nouveaux. Ô Dieu, car ces métamorphoses sont aussi votre ouvrage, secondez mon entreprise de votre souffle et conduisez sans interruption ce poème depuis les plus lointaines origines du monde jusqu'à mon temps. Avant la mer, la terre et le ciel qui couvrent tout, la nature dans l'univers entier offrait un seul et même aspect. On l'a appelé le chaos. Ce n'était qu'une masse informe et confuse, un bloc inerte, un entassement d'éléments mal unis et discordants. Partout où il y avait de la terre, il y avait aussi de la mer et de l'air. Ainsi, la terre était instable, la mer impropre à la navigation, l'air privé de lumière. Aucun élément ne conservait sa forme. Chacun d'eux était un obstacle pour les autres, parce que, dans un seul corps, le froid faisait la guerre au chaud, l'humide au sec, le mou au dur, le pesant au léger. Un dieu, avec l'aide de la nature en progrès, mit fin à cette lutte. Il sépara du ciel la terre, de la terre les eaux, et il assigna un domaine au ciel limpide, un autre à l'air épais. Après avoir débrouillé ces éléments et les avoir tirés de la masse ténébreuse en attribuant à chacun une place distincte, il les unit par les liens de la concorde et de la paix. La substance ignée et impondérable de la voûte céleste s'élança et se fit une place dans les régions supérieures. L'air est ce qui en approche le plus par sa légèreté, par sa situation. La terre, plus dense, entraîna avec elle les éléments massifs et se tassa sous son propre poids. L'eau, répandue alentour, occupa la dernière place et emprisonna le monde solide. Lorsque le dieu, quel qu'il fût, eut ainsi partagé et distribué l'amas de la matière, lorsque de ses différentes parts il eut façonné des membres, il commença par agglomérer la terre pour en égaliser de tous côtés la surface sous la forme d'un globe immense. Puis, il ordonna aux mers de se répandre, de s'enfler au souffle furieux des vents et d'entourer d'une ceinture les rivages de la terre.
Vous écoutez France Culture, Les Chemins de la Philosophie et Georges Claes qui prête sa voix au narrateur des Métamorphoses d'Ovide et qui a vraiment la voix du récit du début du monde, Xavier Darcos. C'est en votre compagnie que nous parlons de ce texte aujourd'hui. On entend la première phrase du texte et celle-ci, je me propose de dire les métamorphoses des formes en des corps nouveaux. C'est la seule occurrence du terme même de métamorphose dans ce texte.
Oui. Alors, c'est toujours dommage qu'on ne puisse pas entendre ce texte en latin, qui est absolument magnifique aussi, je voulais le signaler. Ce qui est intéressant dans ce texte, c'est d'abord qu'il y a là donc une théorie du chaos, il y a quelque chose avant le monde, ce qui n'est pas une idée qui allait de soi pour les anciens, puisqu'ils étaient plutôt dans l'idée du cycle, hein, du système des âges, depuis l'âge d'or, etc. Donc, l'idée qu'il y ait avant tout cela un rien, un chaos et un forme, n'est pas une idée latine ou gréco-latine. Et la deuxième chose très étonnante, comme on l'entend très bien dans l'excellente lecture qui vient d'être faite, il dit « le dieu, quel qu'il fût ».
Un dieu, avec l'aide de la nature en progrès.
Oui. Alors donc il y a un dieu, un dieu unique, n'est-ce pas ? Donc tout ça ne fonctionne pas complètement avec la mentalité antique qui croit au contraire à l'âge d'or, à l'âge d'argent, à l'âge de bronze, à l'âge de fer, qui croit au cycle et qui est polythéiste. Alors on comprend mieux lorsque on entend ce texte ce que dit Ovide. Au fond, il y a eu un moment où tout était mélangé.
C'est ça.
Le chaud, le froid, le lourd, le léger, le feu et la glace. Et il fallait bien que l'ordre règne, que quelque chose de l'ordre de la culture s'impose. Et pour cela, il fallait séparer les éléments. Et donc, l'idée première, c'est que c'est un peu un protocole de lecture du poème lui-même. Dans la confusion générale, il va bien falloir faire un peu de taxinomie, il va bien falloir un peu classer, ranger des choses. Comment va-t-on faire ? Et donc, non seulement le début du premier livre des Métamorphoses est en effet original dans son sujet comme dans sa forme, mais de surcroît, il est extrêmement moderne parce qu'il met le lecteur en situation par rapport à ce qu'il va lire ensuite.
Il y a une mise en scène du texte, parce que là on a entendu le début du premier livre, mais il y a une espèce de prologue dans lequel Ovide explique les conditions de rédaction du texte. Il écrit à ce volume orphelin de père, qui que tu sois, toi qui le touches, fais au moins une place dans ta ville. Je te dirai, pour que tu lui accordes une plus grande faveur, que je ne l'ai pas mise au jour, mais qu'il a été comme dérobé aux funérailles de son maître. Tous les défauts que possède ce poème ébauché, je les aurais corrigés si je l'avais pu.
Oui.
Il y a ici à la fois un aveu de, disons, presque de coquetterie, donc si ce texte n'est pas parfait, mais c'est bon, c'est parce que je n'ai pas pu le retoucher jusqu'au bout, parce que j'ai été exilé, et en même temps il demande l'adhésion au lecteur.
Exactement. Il y a une modernité aussi de d'Ovid dans son adresse au lecteur, plusieurs fois, où il, avec une métaphore bien connue des anciens, il dit « Mon livre, c'est comme... nous dirions une bouteille à la mer, lui, il dit plutôt une embarcation, un petit bateau qui part, tâche de l'aider à mener son chemin. » Mais le premier vers qui a été lu tout à l'heure à propos...
Je me propose de dire les métamorphoses,
oui,
des formes.
Oui, c'est quand même très étonnant, parce que là, en latin, il dit exactement ceci. « Inoa fert animus mutata dicere formas corpora ». Il dit « Inoa fert animus », c'est-à-dire « fert animus », mon âme est portée, mon âme me pousse à, je dois. Il y a quelque chose de l'ordre
de la mission.
Oui, absolument, c'est de la mission, quelque chose comme ça. Il faut que je dise ça, il faut que je fasse ça. Nous allons essayer de le faire. Et comme vous dites, en plus, en utilisant pour une seule fois et pour une dernière fois, la notion même de métamorphose qui ne sera plus formulée telle quelle.
Alors que ça va très loin, je veux dire, derrière le thème de métamorphose, il y a toute une philosophie au sens fort du terme du monde et de la création qui consiste à dire que rien... pour paraphraser Lavoisier, qui lui-même paraphrase sans doute Ovide, hein, que rien ne se perd, tout se transforme, c'est-à-dire qu'on n'est jamais, il y a jamais un début absolu. Or, le texte lui-même semble mettre en terme, en forme justement, cette proposition de début. C'est toute la force du mythe ici qu'on entend. Le mythe est ce qui va donner un sens à ce qui n'en a pas.
Ajoutons à cela que la métamorphose n'est pas un mythe. Que la chenille qui devient papillon, c'est pas un mythe. Et donc, ce qui est intéressant dans la mythologie quand même de la métamorphose, c'est que elle peut s'adosser de temps à autre à une sorte de réalité du monde. Le monde est une métamorphose permanente. Et beaucoup de poètes, notamment au XVIe siècle, s'y sont beaucoup intéressés. On a tous appris, oh Dieu, que véritable est la philosophie, qui dit que toute chose en changeant périra.
Pas tous comme professeurs de Marcos.
Les poètes de la Pléiade ont adoré ça. Et au XIVe siècle, lorsqu'on a parlé d'Aétas, Ovidiana, cette période où Ovide était une sorte de demi-dieu sur Terre pour tous les intellectuels, tous les écrivains, ce qui intéressait précisément chez Ovide, c'est qu'il il avait peut-être compris, du moins le croyait-on, la clé de la création. Nous avons commencé par Christine de Pizan. Elle vient directement de ce fameux texte qui a été extrêmement diffusé au XIVe siècle, qui s'appelait l'Ovide moralisé, n'est-ce pas, que tout le monde lisait. Et l'Ovide moralisé, comme son nom l'indique, c'est-à-dire on cherchait dans Ovide les clés pour comprendre ce que devait être le destin de l'homme, la relation
de l'homme. Ce qui est la fonction du mythe.
C'est exactement la fonction du mythe, mais on attribuait, bien sûr, mais on attribuait à Ovide le mérite d'en avoir fait une synthèse absolument parfaite, et il devenait le magister, la référence totale. Le succès de l'Ovide moralisé est absolument considérable. Au XIVe siècle, ça a été sans doute l'œuvre la plus connue, la plus commentée, la plus utilisée dans les milieux des intellectuels, des écrivains, des penseurs, des artistes.
Mais c'est-à-dire qu'il suffit même de le feuilleter pour voir la postérité qu'a eu ce texte, autant des références qui sont devenues communes, que ce soit le mythe de Narcisse, le mythe d'Écho, le terme même de protéiforme qu'on trouve ici dans ce texte, beaucoup de pactole, le fleuve pactole qui charrie de l'or, et aujourd'hui on parle de pactole, autant de traces qui restent aujourd'hui sans qu'on remonte jamais jusqu'aux sources. En fait, on ne mesure pas l'impact qu'a eu ce texte-là sur notre culture aujourd'hui.
Oui, parce que tous ces mythes, ils existaient, mais ils étaient éparpillés, et plus ou moins connus. Et donc il les réunit, il essaie de leur donner une continuité. C'est une question que vous aurez à vous poser beaucoup cette semaine. Comment passe-t-on d'un mythe à l'autre? Qu'est-ce qui fait qu'il y a un ordre? Pourquoi on commence?
Parce que ce sont des chapitres très très courts.
Oui, c'est ça.
C'est 2-3 pages à chaque fois, il y en a 230, je crois.
Et ben alors toujours avec un talent, parce qu'il faut peut-être dire un mot, si ça a marché, c'est pas seulement parce que Ovide a choisi le sujet des métamorphoses, c'est parce que c'est un écrivain extrêmement talentueux, avec un sens du pittoresque, avec une très belle imagerie, avec en particulier l'obsession de montrer les choses dans leur durée, dans le moment où elles se réalisent. Ce qui a tellement fasciné, comme vous savez, les peintres et les sculpteurs, comment représenter la métamorphose en action. C'était même un problème très difficile. Comment représenter Io, par exemple? Io est transformée d'une jeune femme en vache. Comment vous présentez ça? Faites-moi un tableau d'une femme qui devient vache. Bon. Donc, il y avait une... C'était un...
Oui, parce qu'il peint le passage.
Le passage,
absolument. Et non pas un état puis un autre, mais ce qui fait qu'on passe d'un état à un autre. Donc, comment la création peut-elle représenter ça?
On ne peint pas l'être, mais le passage, lui aussi. Et Et donc, ça a été un défi pour les grands. Alors, on pourrait citer des exemples célèbres. Un qui est absolument magnifique, là, une sculpture au moins, c'est la Daphné du Bernin qu'on trouve à la Villa Borghese, qui est représentée partout, où une partie des mains deviennent des feuilles.
De laurier.
Où le corps commence à se recouvrir d'une sorte d'écorce. Et une sculpture tellement compliquée qu'on ne peut pas la voir d'un coup. Il faut qu'on tourne autour. C'est une sorte de torsion complète. Donc on tourne autour, on accompagne ce mouvement. Et on disait que lorsqu'on déplaçait cette statue, tellement étaient fins les petites ramifications, tellement étaient fines les petites ramifications des doigts que ça teinte un peu.
Ça frétillait.
Ça teinte un peu. Donc, vraiment, ça a été un défi esthétique, un défi de création que Covid avait pu régler sur le papier, mais qui était beaucoup plus difficile à régler sur un tableau ou dans le marbre.
Alors on va entendre un mythe quand même, un exemple de mythe, mais pas n'importe lequel. Il s'agit du mythe de Phaéton, celui qui voulut conduire le char de son père Apollon, le char qui consiste à faire se déplacer le soleil et donc à faire en sorte qu'il fasse jour pour nous autres pauvres êtres humains sur la planète Terre. Ce mythe, écoutez comment il est introduit par Italo Calvino, qui dans La Machine littérature rend hommage à Ovide et à ce qu'il appelle la contiguïté universelle. Italo Calvino donc, puis le mythe de Phaéton.
Nous sommes dans un univers où les formes remplissent au plus serré l'espace en échangeant entre elles continuellement qualité et dimension, où le flux du temps est rempli par une prolifération de récits et cycles de récits. Les formes et les histoires terrestres répètent les formes et les histoires célestes. Davantage, les unes et les autres s'enroulent à leur tour en une double spirale. La contiguïté entre Dieu et être humain, apparentée aux dieux et objets de leurs amours compulsifs, est un des thèmes dominants des métamorphoses. Mais elle n'est qu'un cas particulier de la contiguïté de toutes les formes et figures de l'existence, anthropomorphes ou non, faune, flore, règne minéral, firmament englobant dans une même substance ce que nous avons coutume de considérer comme proprement humain en tant qu'ensemble de qualités corporelles, psychologiques et morales. La poésie des métamorphoses plonge essentiellement ses racines dans ces frontières indistinctes entre mondes différents. Et elle trouve déjà une extraordinaire occasion de se développer avec le mythe de Phaéton qui ose prétendre conduire le char du soleil. Le ciel y apparaît comme un espace absolu, une géométrie abstraite, et tout ensemble comme le théâtre d'une aventure humaine rendue avec une telle précision de détails qu'elle interdit de perdre le fil ne serait-ce qu'une seconde et porte le bouleversement émotif jusqu'au spasme.
Apollon frotte le corps de son enfant avec une essence inaccessible aux flammes, puis, en versant des larmes prophétiques, il enlève sa couronne et la pose sur la tête de Phaéton.
Le jeune audacieux remercie son père. Il saute sur le char strident, saisit les rênes, pousse un grand cri. Les chevaux s'élancent dans le vaste ciel et refoulent les nuages en agitant leurs pieds.
Mais le fils de Climène est trop léger. Semblable à un navire qui n'a pas assez de lest et que la mer bouscule, le char solaire, privé de sa charge habituelle, bondit au plus haut des cieux.
Quand Phaéton jeta ses regards au-dessous de lui, la terre lui apparut si lointaine qu'il sentit défaillir son cœur.
Il ne sait de quel côté se diriger. Et même s'il le savait, pourrait-il imposer sa volonté à des chevaux de flammes?
Cependant, le char ne suit plus sa route accoutumée. Le quadruple attelage s'est jeté sur la droite.
Alors les astres glacés du pôle septentrional s'échauffèrent pour la première fois. La lune voit avec stupéfaction les chevaux de son frère courir plus bas que les siens. Les nuages sont embrasés. L'incendie dévore le sommet des montagnes. Des villes immenses périssent avec leurs habitants.
Alors le grand Jupiter, ayant pris à témoin les dieux et Apollon lui-même, que le monde entier allait périr s'il ne venait à son secours, monte précipitamment au plus haut de l'Olympe. Il saisit sa foudre et la lance avec force sur le présomptueux cocher.
Les chevaux, épouvantés, bondissent dans tous les sens. Ils brisent leurs rênes et se débarrassent du char fracassé. Phaéton est précipité la tête en bas. Ses cheveux enflammés tracent un sillon lumineux dans le ciel crépusculaire. Il tombe, loin de son pays natal, au sein du fleuve Éridan, dont les eaux bienveillantes éteignent son cadavre embrasé.
Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie et l'interprétation, enfin l'adaptation radiophonique des Métamorphoses d'Ovide, diffusée lors de la soirée de Paris le 3 février 1967. Vous avez pu reconnaître les voix de Michel Bouquet, de Nelly Borjo notamment. Nous sommes en compagnie de Xavier Darcos, qui a publié Ovide et la mort aux éditions PUF et qui fait paraître Virgile, notre vigie, chez Fayard et qui nous accompagne donc pour ce premier temps de cette série consacrée aux Métamorphoses d'Ovide. Beaucoup de choses dans ce qu'on vient d'entendre. D'abord le texte d'Italo Calvino et puis le mythe de Phaéton, deux textes très riches à leur façon. Juste restons sur le mythe de Phaéton un instant. Ce qu'il y a de fascinant dans ce mythe, au-delà de l'utilisation de la langue qui est vraiment bouleversant pour le coup, de finesse, de précision, de fantaisie, d'émotion, c'est qu'on passe de l'autre côté du miroir. Hein. C'est que à la fin de ce récit, donc le Phaéton n'arrive pas à conduire le char parce qu'il est trop léger, donc les chevaux s'emballent, tout s'enflamme. Il est projeté hors du char, son corps tombe dans le fleuve Éridan qui baigne son visage fumant. Et enfin, il écrit « Le malheureux père, accablé de douleur, avait caché son visage sous un voile de deuil. S'il faut en croire la tradition, un jour s'écoula sans soleil, l'incendie seul éclaira le monde et trouva ainsi quelque utilité dans ce désastre. » Nous sommes de l'autre côté de la planète, nous sommes du côté des dieux et nous pouvons pleurer avec le père qui a perdu son fils alors qu'il s'agit de Dieu. C'est ça qui est complètement bouleversant à la lecture de ce mythe. Oui.
Alors c'est en effet un très très beau texte qui part d'un mythème, enfin d'une structure mythographique connue qui est l'orgueil humain, la volonté de faire ce que seuls des dieux peuvent faire, hein, c'est voler, Icare qui tombe, ou voler le feu aux dieux, bon, Prométhée, se mettre à être le soleil. Et donc tout ça, on sait très bien que ça va mal finir. Donc le mythe lui-même est connu, c'est une structure narrative bien connue de certains mythes, mais comme vous venez de le dire, écrit d'une manière absolument géniale par Ovide, merveilleuse, et avec en effet une profondeur sur la question de la... De l'équilibre du monde. Il y a un moment où les dieux laissent le monde vivre, mais si on cherche à tout prix à briser cette sorte d'harmonie qu'il y a entre les éléments qui s'échangent, alors là, à un moment il faut qu'ils interviennent, comme si les dieux regardaient avec une certaine indifférence le grand roulement des choses, mais lorsque une brisure entre les éléments est trop puissante, qui pourrait conduire à la destruction de la nature elle-même, il faut qu'ils interviennent.
Il y a une bienveillance et parfois une fureur, hein. Jupiter quand même au début veut punir l'humanité, oui. Et produit un déluge de manière à ce qu'on recommence et on repart de zéro.
Oui, le déluge, c'est comme dans l'Ancien Testament, voilà. Nous l'avons pas dit tout à l'heure, mais le chaos, la destruction, le déluge, la destruction des hommes et la renaissance des hommes purs, c'est la même structure que la Genèse, que l'Ancien Testament. Alors, cela dit, ce qui est tout à fait formidable dans ce que nous avons entendu, c'est aussi la manière dont Calvino en parle, parce que Calvino montre très bien que pour les anciens, c'est très vrai chez Virgile aussi, hein. Mais enfin chez Ovide plus tard également. C'est qu'il n'y a pas d'hiatus entre l'homme et son environnement. Que nous sommes dans une sorte de pananimisme. Que sève et sang sont la même chose. Et que attenter à quoi que ce soit autour de soi, à une feuille, à un oiseau, à un animal, à un fleuve, que sais-je, c'est prendre des risques inutiles. Parce que c'est introduire une rupture dans un ordre qui est équilibré, qui est fragile, et où tout vit, tout vit, tout est plein d'âme, comme dirait Victor Hugo, hein, dans la bouche d'homme. Et donc, aller chercher à détruire, c'est prendre le risque de se détruire lui-même. Ça, c'est vraiment l'essence du paganisme, et entre deux soit dit, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant que le monothéisme. C'est-à-dire, cette idée qu'il y ait partout des forces, des puissances, des influences qui se trouvent à tout lieu, sous toute forme, dans la faune comme dans la flore, comme dans l'humain, et que tout cela fait un équilibre parfait. Alors on peut y toucher, mais il faut pas trop y toucher. Et d'ailleurs, c'est quand on y touche trop qu'on passe de l'un à l'autre. Nous parlions tout à l'heure du mythe de Daphné. C'est parce qu'on veut à tout prix empêcher cette Daphné de rester
vierge.
Alors
rappelez l'histoire de Daphné, quand même, pour ceux qui la connaissent
elle
pas.
Elle est poursuivie par un dieu qui veut la posséder, et Apollon. Comme elle veut par Apollon, et comme elle veut absolument rester vierge, eh bien elle dit au dieu, transforme-moi, empêche qu'on... Et ben, d'accord, il y a aucun problème. Et elle passe de femme à plante.
Laurier. En fait.
Il y a tellement peu, la nature est un ensemble tellement harmonieux que la seule façon d'échapper à une rupture trop violente dans le monde, c'est d'aller rejoindre un autre ordre dont on est déjà parent, c'est-à-dire c'est aller se fondre ailleurs dans le grand tout. Et cette idée, alors elle est tout à fait présente chez Virgile. Hein. Virgile est obsédé par l'idée que toute discorde, c'est le mot qu'il utilise le plus volontiers, que toute discorde, de quelque nature que ce soit, aller polluer une source, ne pas écouter le bruit des feuilles dans le vent, être chasseur, mettre du désordre dans cet ordre écologique, c'est la garantie d'avoir beaucoup d'embêtements.
C'est ce qui les distingue quand même, Virgile et Ovide, de Lucrèce, qui dans son poème de la nature, dans le matérialisme qu'il propose, le matérialisme épicurien qu'il propose, laisse une place au hasard. Le clinamen, qu'est-ce que c'est si ce n'est cette légère déviation d'un atome à un moment donné qui fait que de ce que l'on voit va naître autre chose.
Oui.
Alors, deux conceptions du monde différentes.
C'est deux conceptions du monde différentes. En plus, il y a chez Lucrèce quand même un athéisme de fond qui refuse de croire que la divinité puisse intervenir, quel que soit, tant la religion a pu y persuader d'erreur. Hein, vous vous souvenez de cette citation célèbre. Et il y a chez Lucrèce, après Épicure, une volonté quand même de donner une explication rationnelle du monde où le hasard et la nécessité jouent un rôle très important. Je ne suis pas certain, vous le disiez d'ailleurs, nous ne sommes pas vraiment dans le même état d'esprit avec Virgile et Ovide. Nous sommes dans un monde où tout frémit de vie, sous des formes les plus diverses, et bien loin d'être un monde sans Dieu, c'est un monde qui est plein de Dieu. Il y a du Dieu partout, si je puis dire. Il y a du divin partout. Ou en tous les cas, de ce qu'on appellera le divin, faute de savoir le nommer autrement. C'est une espèce de frémissement de vie perpétuelle qui fait que rien ne s'arrête. Et c'est bien le sens de la métamorphose. La métamorphose, elle dit ça. C'est que le sens profond de la métamorphose, c'est la permanence d'une vie sous diverses formes ou d'une forme à l'autre.
Voilà, la question est de savoir si cette permanence est l'expression d'une seule et même substance. C'est ce que dit Italo Calvino dans son texte. Hein. Il dit que faune, flore, règne minéral, firmament englobe dans une même substance ce que nous avons coutume de considérer comme proprement humain, en tant qu'ensemble de qualités corporelles, psychologiques et morales. On parlerait aujourd'hui quasiment d'antispécisme, hein. C'est-à-dire que nous sommes faits du même bois, tous, y compris ce qui n'est pas végétal, donc même le minéral et l'humain, ou si il y a une harmonie entre différentes substances, que ce n'est pas du tout la même chose. Qu'est-ce que vous en pensez, Xavier Darcos?
Je ne sais pas répondre à cette question. Ce que je crois plutôt, c'est que la métamorphose manifeste, un, la permanence de la vie à travers toutes ses formes, et deux, le fait qu'on finit toujours par devenir ce que l'on est. C'est-à-dire que lorsqu'on est dur, cruel, etc., on deviendra pierre. Lorsqu'on pleure tout le temps parce qu'on est malheureux, etc., on deviendra source ou...
Il y a un lien de tempérament entre ce que nous sommes et ce que nous serons après notre mort.
Et lorsqu'on est une figure d'élite, déjà un demi-dieu sur Terre, on deviendra une étoile, parce que notre âme est tellement pure, c'est tellement un feu intérieur qu'on va devenir un astre.
Ce qu'on appelle l'apothéose.
L'apothéose, où les latins parlaient même de catastérisme, c'est-à-dire l'idée qu'on devenait...
Une étoile.
On devenait une étoile. Et alors, la mythologie de la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ et de l'Empire s'en est beaucoup servi pour, en effet, comme vous le dites, faire l'apothéose. Alors, on prétendait, par exemple, que lors du bûcher de César, on avait vu une étoile filante.
On a le récit de l'apothéose de Jules César dans les Métamorphoses.
Alors c'est tout à fait. Et donc cette idée que au fond chacun a une substance naturelle, en tous les cas un caractère particulier, qui finira par s'accomplir au bout de la métamorphose. Entre depuis le cruel qui devient lion, ou la jolie jeune fille qui devient laurier, jusque aux élus. Les plus prestigieux qui deviennent des étoiles que l'on peut regarder circuler dans le ciel.
Voilà l'apothéose de César juste avant l'épilogue, parce qu'on va entendre la fin du texte, on va passer du début à la fin, votre compagnie Xavier Darcos, parce que c'est la même chose au fond, hein. C'est tout ce que nous avons dit jusqu'à présent conduit à cette fin. Écoutez l'apothéose de César, Ovide la décrit ainsi: après avoir égalé le grand âge du vieillard de Pylos, César entrera au séjour éthéré au milieu des astres de sa famille. Cependant, emporte avec toi cette âme qui s'échappe de son corps immolé et change-la en étoile, pour que le divin Jules veille à tout jamais du haut des célestes demeures sur notre Capitole et sur le Forum. Il avait à peine fini de parler que la bonne Vénus s'arrête au milieu du palais du Sénat. Invisible pour tous, elle enlève du corps de son cher César l'âme qui vient de s'en séparer, et pour l'empêcher de se dissiper dans les airs, elle la porte au milieu des astres du ciel. Cependant, elle s'aperçoit que cette âme s'illumine et s'embrase. Elle la laisse échapper de son sein. L'âme s'envole au-dessus de la lune et, traînant après soi à travers l'espace une chevelure de flamme, elle prend la forme d'une étoile brillante.
Je ne sais pas si c'est parce que vous le lisez merveilleusement, mais je trouve ce texte...
Le texte est incroyable. Mais toutes les métamorphoses de vie
sont
comme ça.
Chaque fois que je l'entends, j'en suis presque ému. Parce que je trouve l'image en particulier, parce que ce qu'il faut ajouter à cela, c'est que il y a... c'est pas n'importe qui va le chercher, c'est Vénus, qui est l'ancêtre de
la
César.
Bonne Vénus, est-il dit, c'est-à-dire
la
déesse
de... Parce que César prétendait descendre de Jules César, qui était le fils d'Aîné, lequel Aîné a pour mère Vénus. Et donc c'est son ancêtre qui vient le prendre dans son sein et il s'échappe tout seul. Et ensuite il va être cette étoile qu'on regardera dans le ciel. Il y a d'ailleurs chez Ovide une obsession du monde stellaire. Hein. Il a beaucoup parlé de cela dans les faces. Parce que, alors, les anciens, évidemment, le regardaient sans cesse, le monde stellaire, parce que c'est ce qui leur permettait de savoir où aller et quelle heure il était. Nous regardons notre montre, nous avons un GPS, et nous en étions loin. Là, on regardait les étoiles pour se diriger, pour savoir quelle heure il était. Mais aussi parce que, justement, pour lui, les étoiles, c'est cet immense champ des âmes célestes. On a sous les yeux, sous la voûte céleste, une juxtaposition d'identité, de personnalité exceptionnelle. On a les âmes qui brillent pour nous. Hein, c'est plus fort encore que la communion des saints que défendra qu'aimera le catholicisme. Cette idée qu'on vit entouré des âmes de nos défunts, n'est-ce pas? Et donc oui, c'est le catastérisme, donc cette idée qu'on devient astre est une magnifique mythologie.
Bon, on a envie de lire toutes les mythologies hein, maintenant. Donc heureusement, on va le faire toute cette semaine. On se retrouvera demain, mercredi et jeudi, en compagnie d'autres invités. Mais en votre compagnie, Xavier Darcos, on va aller directement à la fin du recueil, au livre 15, et laisser la parole à Ovide, qui lui-même va la céder, puisqu'il y a tout un jeu de narration assez compliqué et assez jubilatoire, à Pythagore. Le Pythagore qui, pourtant, n'est pas du tout contemporain d'Ovide. Socrate lui-même en parle dans ses textes, notamment dans le Phédon. Pythagore qui propose, là, ce qu'on pourrait appeler une métempsychose, les âmes se logent dans les corps, les âmes ne font qu'habiter temporairement un corps, mais elles ont une vie indépendante des corps, et en toute logique. Donc, il faudrait non seulement ne pas perturber l'ordre établi, l'harmonie établie, mais ne pas s'entretuer, ne pas consommer de la viande, puisque qui dit que lorsque nous mangeons une vache, un bœuf, un poulet, eh bien ce n'est pas un membre de notre famille qui est mort peu de temps auparavant, qui s'est réincarné. Voici comment donc le livre 15 des Métamorphoses d'Ovide peut être lu comme une curieuse apologie du végétarisme.
Pythagore, après avoir par la puissance de son génie et par un travail infatigable pénétré tous les secrets de l'univers, les communiquait aux autres, entouré de disciples silencieux que ses discours remplissaient d'admiration. Il disait les origines du vaste monde, les principes des choses, ce que c'est que la nature, la divinité, comment se forme la neige, ce qui cause la foudre, si c'est Jupiter ou bien le vent qui déchaîne le tonnerre en crevant les nuages, ce qui produit les tremblements de terre, quelle loi préside aux révolutions des astres, enfin, toutes sortes de vérités cachées. Le premier, il fit grief aux hommes de servir sur les tables la chair des animaux. Le premier, il tint ce langage plein de sagesse qui pourtant ne fut pas écouté. Abstenez-vous, mortels, de souiller vos corps de mets abominables. Vous avez les céréales, vous avez les fruits dont le poids fait courber les branches, et sur les vignes, les raisins gonflés de jus. Vous avez des plantes savoureuses et d'autres que la flamme peut rendre douces et tendres. Ni le lait, ni le miel qu'a parfumé la fleur du thym ne vous sont interdits. La terre, prodigue de ses trésors, vous fournit des aliments délicieux. Elle vous offre des mets qui ne sont pas payés par le meurtre et le sang. Le ciel et tout ce qu'il y a dessous changent de forme, aussi bien que la terre et tout ce qu'elle contient. Nous aussi, qui faisons partie du monde, puisque nous ne sommes pas seulement des corps mais aussi des âmes légères, nous pouvons aller habiter des formes de bêtes sauvages, être cachés dans des corps d'animaux domestiques. Ces corps, qui peuvent avoir reçu en partage les âmes de nos parents, de nos frères ou d'êtres qui nous sont unis par les liens du sang, en tout cas des âmes humaines, laissons-les vivre tranquilles et respectées.
Végétarien peut-être, mais pas vegan, dirait-on aujourd'hui, hein, puisque quand même Pythagore vante les bienfaits du lait et du miel qui sont interdits par les vegans stricts, enfin ceux qui respectent strictement leur véganisme, Xavier Darcos. Alors comment on explique ? Bon, on ne peut pas consommer de viande parce qu'on peut consommer nos ancêtres, et peut-être nous-mêmes allons devenir animal, mais c'est uniquement par respect, disons, du devenir de l'âme après la mort qu'il ne faut pas consommer les animaux.
Alors, vous avez eu raison, évidemment, de donner une place au discours de Pythagore dans le 15e livre, c'est-à-dire à la fin, comme si Pythagore donnait la clé de l'ensemble de la fresque des métamorphoses. C'est lui qui explique au fond le sens de tout ça. Alors, il faut savoir, mais enfin, je pense que nos auditeurs le savent, que il y avait à l'époque d'Ovide une sorte de retour à un intérêt pour la pensée de Pythagore, ce qu'on appelait un néo-pythagorisme. Il y avait même des sectes, des gens qui se réunissaient, qui pour parler autour de cela, il y avait certainement des cultes de toute nature. Et même, on a interprété parfois la condamnation d'Ovide comme étant sa punition pour avoir participé à des sectes néo-pythagoriciennes. Grande figure du néo-pythagorisme romain, Nigidius Figidius, qui a été très admiré par beaucoup d'anciens. Donc, pour le lecteur contemporain d'Ovide, Pythagore, ça veut dire quelque chose, mais ça sent un peu quand même le mystico-sectaire. Enfin, c'est un monde étrange, quand même. Et Pythagore, alors, dit deux choses. La première, morte carent animae, c'est-à-dire que les âmes ne meurent pas. Il y a une immortalité de l'âme. Et deuxièmement, que ces âmes se réincarnent sans cesse. Et donc, qu'il serait une folie que de vouloir dévorer des animaux qui, vraisemblablement, sont la réincarnation de quelques-uns de nos voisins ou de nos ancêtres. Intéressant, puisque Pythagore, le vrai Pythagore, le prophète de Samos, il parle exactement au même moment que Bouddha, à l'autre bout de l'univers, qui dit à peu près la même chose d'ailleurs. Donc il y a quelque chose de curieux dans cette coïncidence. Alors, pourquoi est-ce que c'est important ? Parce qu'en effet, du coup, toutes les métamorphoses s'expliquent. Les métamorphoses, c'est la preuve que les âmes ne meurent jamais, qu'elles se réincarnent sur plusieurs formes, qu'elles peuvent habiter toutes sortes de formes de vie, et que s'abstenir de manger une bête, ou c'est la même chose que de s'abstenir d'attenter à la vie de quelqu'un ou d'un proche ou d'un homme. Et donc c'est une sorte de philosophie du respect de toutes les formes de vie. C'est une apologie de la vie, en fait, les métamorphoses. Et le dernier mot des métamorphoses, c'est le futur du verbe vivre. Oui, wam, je vivrai.
Ça, c'est sublime. C'est vraiment les dernières phrases. Ovide semble s'adresser directement à la postérité. Je le lis pour le plaisir des oreilles.
Ça, c'est le plaisir.
Et maintenant, j'ai achevé un ouvrage que ne pourront détruire ni la colère de Jupiter, ni la flamme, ni le fer, ni le temps vorace. Que le jour fatal, qui n'a de droit que sur mon corps, mette, quand il voudra, un terme au cours incertain de ma vie. La plus noble partie de moi-même s'élancera, immortelle, au-dessus de la haute région des astres, et mon nom sera impérissable. Aussi loin que la puissance romaine s'étend sur la terre domptée, les peuples me liront, et désormais fameux, pendant toute la durée des siècles, s'il y a quelque vérité dans les pressentiments des poètes, je vivrai.
C'est magnifique.
Et il avait raison.
Oui.
C'est ça qui est fou.
Oui, il est en effet immortel. Mais vous voyez qu'il relie bien tout ce qu'il a dit avant, en disant, c'est ça, s'il y a quelque chose de vrai dans ce que nous avons dit, puisqu'il y a...
Si mon âme deviendra étoile.
Mon âme deviendra étoile. Et donc, c'est une apologie de la vie. Et c'est peut-être pour ça que les métamorphoses sont une sorte de bible de la vie. Et que elles ont pu être lues par des lectorats, avoir des réceptions extrêmement diverses à travers l'histoire, jusqu'à des réceptions chrétiennes d'ailleurs, puisque certains ont dit ça, voilà, il a anticipé l'immortalité de l'âme, enfin, de toute nature, parce que tout simplement, c'est une apologie de la vie.
Vous parlez des différentes réceptions de vie, on va se quitter avec un chant particulier qui me semble vous intéresse précisément, Xavier Darcos, c'est un chant troubadour de Bernard de Ventadour,
ah,
qui chante.
Un de mes contemporains, Frédéric Bourdin.
Kan vejla laut sita mover de joysa salas kontra rein ki sobides laisa chazin Bella du sor ca colliva hai Hai tan grans en veja mente De qui quiu veja jazion Meravillas ai cardese Lo cor de
Bernard de Ventadour, qui donc vit au XIIe siècle environ. Alors c'est un lecteur d'Ovine ou comment on fait le lien?
Tous.
Ah oui.
Alors je l'ai appelé contemporain, je voulais dire compatriote, parce qu'il est du...
On vous a pas bien entendu, vous avez dit quoi d'ailleurs? Périgourdin,
Limousin, oui.
Une région
Et bien entendu, toutes ces poètes, tous ces troubadours et ces trouvères connaissent Ovide. Ils le connaissent très bien. Et ils s'en servent surtout comme une sorte de mode d'emploi pour toutes les figures rhétoriques dans le domaine de la poésie amoureuse notamment. C'est moins les métamorphoses que l'arbre d'aimer, mais il l'utilise comme sorte de réservoir, on tire un tiroir et on fait un petit poème à partir d'un sujet ovidien. C'est l'importance de Ovide dans cette poésie est absolument énorme.
Un grand merci à vous Xavier Darcos d'être venu nous transmettre votre passion d'Ovide aujourd'hui.
C'est avec beaucoup de plaisir.
Un plaisir partagé. Je renvoie à Ovide et la mort, votre ouvrage disponible au PUF. Et puis la semaine prochaine paraîtra Virgile, notre vigie, aux éditions Fayard. Je rappelle que vous êtes membre de l'Académie française et de l'Académie des sciences morales et politiques. Et en plus d'être un ancien ministre, vous êtes également, mais ça on l'aura entendu, un ancien professeur de Cagnes. J'en profite pour annoncer également un colloque Ovide 2017, puisque nous fêtons les 2000 ans de la mort d'Ovide cette
Absolument,
année.
Absolument, il est mort en 17.
Voilà, donc le transitoire et l'éphémère, un apax à l'ère augustéenne, c'est le titre du colloque organisé par Gilles Seron et Hélène Casanova-Robin, que je recevrai cette semaine. C'est une manifestation qui se tiendra à l'Université Paris-Sorbonne, salle des Actes, les 27, c'est aujourd'hui, et 28 mars, ça, c'est demain. Les références sont en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie. Sur France Culture, il est l'heure de retrouver, comme tous les jours, les 2 minutes papillon de Géraldine Mosna-Savoie. Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à tous.
Comme tous les jours, vous nous donnez envie de lire un livre qui vient de paraître, un livre de philosophie généralement. C'est le cas aujourd'hui puisqu'il s'agit d'un livre sur Diogène le Cynique.
Oui, c'est une monographie sur Diogène le Cynique par Étienne Elmer qui est parue dans l'excellente collection des Belles Lettres, Figures du Savoir. Alors, excellente collection parce qu'elle nous plonge dans le parcours, l'œuvre et la réception d'un philosophe de manière claire et même palpitante, faisant de sa vie une véritable aventure intellectuelle. En tout cas, c'est l'impression que l'on a et que l'on peut retrouver ici avec avec Diogène, d'autant que ce que l'on sait de son existence semble s'y prêter parfaitement. Alors voici par exemple quelques-uns de ses exploits, cracher au visage de l'un de ses hôtes, faire l'amour et se masturber sur la place publique, et conduire Alexandre le Grand, voler dans les temples pour vivre, et même faire l'apologie de l'inceste et de l'anthropophagie. Alors certes, une fois rappelées ces anecdotes, on peut se demander en quoi il s'agit encore d'une vie intellectuelle, on peut se demander à juste titre si Diogène était un philosophe avec justement beaucoup de philosophie, à juste titre, et justement la redondance n'est pas de trop pour un tel personnage qui avait fait de l'excès et de la démesure ses principes mêmes de philosophie, et elle n'est pas de trop non plus pour se demander comment donc rendre justice à celui qui philosophait comme un chien, en aboyant contre les conventions, en vivant à la marge, tout voué au présent de ses désirs et de la fortune. Mais la question est double, elle concerne à la fois Diogène, comment faire un portrait juste de sa philosophie pas comme les autres, et elle concerne aussi plus largement l'activité philosophique, qu'est-ce que philosopher au juste? Parce qu'il ne séparait pas ses paroles de ses actes, parce qu'il les mettait en adéquation, en parlant vrai et en faisant vrai, à force de pique et de répartie, mais aussi parce qu'il s'adressait à chacun également, sans égard aux distinctions. C'est ainsi que Diogène voulait viser juste. De là, la justice, qu'il y a à prendre en compte toute philosophie singulière, mais aussi la justesse, qu'il y a à vouloir réveiller chacun des individus à se questionner sur sa propre place.
Philosopher comme un chien, l'image est belle. C'est pas facile, hein, Géraldine?
Non, c'est pas facile, mais vraiment, cet ouvrage est passionnant. On sait comment on peut faire pour philosopher comme un chien grâce à Étienne Elmer et cette monographie Diogène le cynique parue aux belles lettres.
Merci Géraldine, merci à tous. Les chemins de la philosophie touchent à leur fin. On se retrouve demain pour la suite de cette semaine sur les métamorphoses d'Ovide. Demain, je recevrai Jean-Luc Lévrier. On s'interrogera sur la dimension politique de ces métamorphoses. Merci à Livia Garrigue qui a préparé cette émission, Nicolas Bouteloup, Antoine Ravon, Marianne Chassor, Nicolas Berger qui réalise cette semaine, Juliette Delperroux, votre compatriote périgourdine, Xavier Darcos,
qui
était à la prise de son. Aujourd'hui, rendez-vous sur nos pages Facebook et Twitter, où nous mettons en ligne l'émission du jour et attendons vos remarques et commentaires. Puis sur le site de France Culture, vous pourrez télécharger cette émission afin de la réécouter où vous voulez et quand vous voulez, grâce au podcast.